Audiolib présente Ni d'Ève, ni d'Adam d'Amélie Nothomb. Lu par Sylvie Testu.
Le moyen le plus efficace d'apprendre le japonais me parut d'enseigner le français. Au supermarché, je laissai une petite annonce. Cours particulier de français, prix intéressant. Le téléphone sonna le soir même. Rendez-vous fut pris pour le lendemain dans un café d'Omotesando. Je ne compris rien à son nom, lui non plus au mien. En raccrochant, je me rendis compte que je ne savais pas à quoi je le reconnaîtrais, lui non plus. Et comme je n'avais pas eu la présence d'esprit de lui demander son numéro, cela n'allait pas s'arranger. Il me rappellera peut-être pour ce motif, pensais-je. Il ne me rappela pas. La voix m'avait semblé jeune. Cela ne m'aiderait pas beaucoup. La jeunesse ne manquait pas à Tokyo en 1989. À plus forte raison dans ce café d'Omotesando, le 26 janvier vers 15h. Je n'étais pas la seule étrangère, loin s'en fallait. Pourtant, il marchait vers moi sans hésiter. « Vous êtes le professeur de français ? Comment le savez-vous ? » Il haussa les épaules. Très raide, il s'assit et se tut. Je compris que j'étais le professeur et que c'était à moi de m'occuper de lui. Je posai des questions et appris qu'il avait 20 ans, qu'il s'appelait Rinri et qu'il étudiait le français à l'université. Il apprit que j'avais 21 ans et que je m'appelais Amélie et que j'étudiais le japonais. Il ne comprit pas ma nationalité. J'avais l'habitude. « À partir de maintenant, nous n'avons plus le droit de parler anglais, dis-je. » Je conversais en français afin de connaître son niveau. Il se révéla consternant. Le plus grave était sa prononciation. Si je n'avais pas su que Rinri me parlait français, j'aurais cru avoir affaire à un très mauvais débutant en chinois. Son vocabulaire languissait. Sa syntaxe reproduisait mal celle de l'anglais qui semblait pourtant son absurde référence. Or, il était en troisième année d'études du français à l'université. J'eus la confirmation de la défaite absolue de l'enseignement des langues au Japon. À un tel degré, cela ne pouvait même plus s'appeler de l'insularité. Le jeune homme devait se rendre compte de la situation car il ne tarda pas à s'excuser puis à se taire. Je ne pus accepter cet échec et tentai de le faire parler à nouveau. En vain. Il gardait sa bouche close, comme pour cacher de vilaines dents. Nous étions dans une impasse. Alors je me mis à lui parler en japonais. Je ne l'avais plus pratiqué depuis l'âge de 5 ans. Et les 6 jours que je venais de passer au pays du soleil levant, après 16 années d'absence, n'avaient pas suffi, loin s'en fallait, à réactiver mes souvenirs enfantins de cette langue. Je lui sortis donc un galimatia puéril qui n'avait ni queue ni tête. Il était question d'argent, de police, de chiens et de cerisiers en fleurs. Le garçon m'écouta avec ahurissement et finit par éclater de rire. Il me demanda si c'était un enfant de 5 ans qui m'avait enseigné le japonais. Oui, répondis-je. Cet enfant, c'est moi. Et je lui racontai mon parcours. Je lui narrai lentement, en français, grâce à une émotion particulière. Je sentis qu'il me comprenait. Je l'avais décomplexé. En un français pire que mauvais, il me dit qu'il connaissait la région où j'étais née et où j'avais vécu mes 5 premières années, le Kansai. Lui était originaire de Tokyo, où son père dirigeait une importante école de joaillerie. Il s'arrêta, épuisé, et but son café d'un trait. Ses explications semblaient lui avoir coûté autant que s'il avait dû franchir un fleuve en crue par un gué dont les pierres auraient été écartées de 5 mètres les unes des autres. Je m'amusai à le regarder souffler après cet exploit. Il faut reconnaître que le français est vicieux. Je n'aurais pas voulu être à la place de mon élève. Apprendre à parler ma langue devait être aussi difficile que d'apprendre à écrire la sienne. Je lui demandai ce qu'il aimait dans la vie. Il réfléchit très longtemps. J'aurais voulu savoir si sa réflexion était de nature existentielle ou linguistique. Après de telles recherches, sa réponse me plongea dans la perplexité. Jouer. Impossible de déterminer si l'obstacle avait été lexical ou philosophique. J'insistais. Jouer à quoi ? Il haussa les épaules. Jouer. Son attitude relevait soit d'un détachement admirable, soit d'une paresse face à l'apprentissage de ma langue colossale. Dans les deux cas, je trouvais que le garçon s'en était bien sorti et j'abondais dans son sens. Je déclarai qu'il avait raison.